Bonjour, je suis Mathieu Baïf et vous écoutez La Voix des Bulles.
Alors c'est dingue parce que je vais vous dire bonjour et je vais vous dire mon nom. Mon nom c'est Alain Cocor et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui se goûte la tête, se pèle la nouille,
à froid.
Oh, on est dans la bonne thématique.
Donc on est toujours à Les Calanques et des Bulles pour la
deuxième... Les Calanques dans la brume.
Ouais, Les Calanques dans la brume pour la deuxième journée. Heureusement qu'il y a des auteurs sympas parce que vraiment il fait pas un super temps.
Il fait un temps de Parisien.
Voilà, là on a interviewé Martin Wittberg, on va diffuser ça bientôt ou avant, ou j'en sais rien quand. Et puis c'est plutôt cool quoi, bonne ambiance, on a bien bossé hein.
Ouais, là on a discuté avec Ludwig Alizon aussi, on va bientôt voir Coucor, on va voir aussi... Valérie Vernet, Mathieu Reynès, on va avoir un compte plein de gens super et c'est vraiment génial.
Et sans doute Eddie Vaccaro aussi.
Ouais, ce serait pas mal. Et puis Domas, j'aimerais bien aussi. Ça va faire du monde. Hein.
Et puis Anachronique aussi, il faut que j'aille le voir parce qu'il faut des dédicaces parce qu'ils font des dessins trop bons.
Ouais, c'est trop bien aussi.
Oui, c'est trop bien Anachronique.
Je suis avec Éric Perron, le scénariste, éditeur, programmeur du site d'une BD qui s'appelle Rage, Fléau des démons. Bonjour Eric, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce projet qui est un peu particulier, ce que j'ai cru comprendre?
Alors il s'agit d'un scénario que j'avais écrit il y a une vingtaine d'années, que j'ai présenté à de nombreux éditeurs et qui a été refusé partout parce que quand on présente un projet seul comme scénariste, souvent ça marche pas. Donc 20 ans plus tard, j'ai découvert les bandes dessinées numériques et j'ai décidé de me lancer, de faire ma bande dessinée, de produire moi-même la bande dessinée. Donc d'abord j'ai cherché un dessinateur. Je l'ai trouvé au bout d'un moment, il s'appelle Tony Silas, on a fait la bande dessinée ensemble et voilà, maintenant elle est disponible chez de nombreux éditeurs numériques. J'ai programmé également une application iTunes de bande dessinée et on cherche toujours un éditeur pour l'impression papier, mais au niveau du numérique on est pratiquement chez tout le monde. On est chez Comixology, chez BD Buzz avec Comics, chez tous les éditeurs numériques connus maintenant.
Est-ce que tu as pensé avec les dessinateurs ta BD particulièrement pour le numérique, ou est-ce que c'est une adaptation d'une BD, de la planche? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité liée au numérique dans ta bande dessinée?
La bande dessinée elle-même est disponible en numérique, mais tout a été fait à l'aquarelle. Le dessinateur travaille à l'aquarelle. Donc il a scanné les planches, et après je me suis occupé du reste. Voilà.
Est-ce que tu peux un peu résumer l'intrigue de Rage ?
L'intrigue de Rage, elle est très simple. C'est une histoire d'heroic fantasy. C'est l'histoire de démons qui envahissent un royaume. Et on fait appel à une créature qui s'appelle Rage, qui est censée détruire les démons et qui va devenir un problème plus important que les démons. C'est pas un héros, c'est le personnage principal uniquement. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Et on peut trouver ça où? Sur l'adresse du site de Rage, c'est...
L'adresse du site de Rage, c'est ragewebsite.fr. Et vous pouvez taper dans Google Rage Website, Rage, voilà. C'est disponible, comme je disais, chez BD Buzz, chez AV Comics, chez tous les éditeurs numériques du moment, voilà.
Et nous voici toujours donc en direct du festival Les Calanques et des Bulles, Tizac au micro, avec nous Mathieu Baïf, alias Ibn al-Rabin. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors une petite présentation rapide, tu n'hésites pas à intervenir pour corriger ou compléter. Tu es de nationalité suisse depuis ta naissance, en 75, tu vis entre France et Argentine, maintenant tu es revenu en Suisse.
Voilà, enfin, j'habite plutôt en Suisse en fait.
Ton style graphique est très minimaliste, tu as co-créé la fabrique de fanzines avec Andreas Kundig et Alex Baladi. On peut considérer que tu es un auteur extrêmement prolifique.
Ouais, bah quand on compare au type dont je suis en train de lire le livre là, ça va en fait.
Mais
c'est un donjon. En fait.
Donc voilà, pour info, donjon, Christophe Gauthier, Johan Svar, Lewis Trondheim.
C'est vrai, à côté, je fais pas grand chose. Non, mais depuis quelques années, je me suis très nettement calmé, ceci dit. Je fais plus qu'un livre par année, à peu près.
Oui, pas mal, mais... qu'un livre par année. Bref. Donc aussi bien des formats courts avec les fanzines, des gros pavés avec L'autre fin du monde, plus de 1000 planches, c'est quand même pas mal. Hein. Tu fais également partie de Loubapo et petite cerise sur le gâteau, tu fais de la musique et je dirais même des musiques.
Ouais, ça m'arrive. Mais c'est très amateur hein, tout ça, la maison musicale en tout cas.
Mathieu, donc, quel est ton actu? Qu'est-ce que tu viens présenter cette année au festival?
J'ai pas trop d'actualité récente. C'est très gentil de m'avoir invité ici, mais je sais pas vraiment pour quelle est la raison profonde. Mais j'ai un livre qui va bientôt sortir normalement. C'est plus tard qu'un livre un peu que j'avais. Donc L'autre fin du monde, c'est un livre très long, mais pas très dense. Il fait plus de 1000 pages, mais il est quand même relativement vite lu pour un livre aussi gros. Et là, j'avais envie de faire un truc qui était complètement le contraire. J'ai fait un truc de 24 pages, mais très dense et sans texte et grand format. Donc ça va sortir en juin, à peu près dans un mois et demi, deux mois à peu près.
Et ça s'intitule?
Ça s'attitue lentement aplati par la consternation. Voilà. Bon. Mais j'ai décidé de faire des titres un peu compliqués depuis quelques temps. Mais là, j'ai rien de spécial, en fait, non, ici. De nouveau, j'ai rien de. Enfin, j'ai fait un livre l'année dernière, en juin aussi, vu que je fais un livre par année, comme je dis. Mais rien de plus récent, non.
D'accord. Question obligatoire pour les poditeurs. Pourquoi ce surnom d'Ibn al-Rabin?
Parce que ça sonne comme un sage oriental et que j'aimais bien ça.
D'accord. Alors, tu as commencé à publier officiellement en 97. Depuis, donc, tu as quand même pas mal écrit, même si tu disais que tu avais un petit peu ralenti dernièrement. Donc, comment s'est passée cette première fois, cette première publication?
En 97, vu que je suis suisse, c'était chez des petites éditions genevoises qui s'appellent Bulb Comics. C'est un Nicolas Robel, en l'occurrence, qui lançait sa maison d'édition. D'ailleurs, il a aussi édité Andreas Kundig. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, mais il fait partie de la fabrique de fanzines avec moi, etc. Et voilà, bon, on s'est rencontrés parce que je ne sais plus pour quelle raison exactement, vu que ça fait quand même un moment où je lui avais montré des choses. Puis il n'aimait presque rien, à part les petits dessins très simples, justement. Et c'est un peu grâce à lui que je me suis dit que je pouvais faire des dessins très simples et peut-être quand même faire des choses qui me plaisaient quand même. Et voilà, et petit à petit après j'ai rencontré les gens d'Atrabil qui sont aussi de Genève, c'est des maisons. Alors c'est pratiquement chez eux que j'ai tout édité, quasiment. Enfin, à part plein de fanzines, mais disons, au niveau des livres, hein, un petit peu, c'est quasiment eux qui ont tout édité, à part Groinge, qui étaient des voisins de Nice, d'ici. Mais je crois qu'ils existent plus maintenant. Enfin, ils existent encore, mais ils font plus de livres. Enfin, donc je sais pas s'ils existent. Enfin, en tant que personne, oui, disons.
Un éditeur qui fait pas de livres.
Ouais, mais ça reste quand même une personne. Je n'en suis pas moins une personne. Et puis voilà quoi, petit à petit, j'ai fait on a beaucoup de chance à Genève. Parce que par hasard, il y a trois éditeurs entre guillemets alternatifs. Moi, je fais des choses quand même pas très. Qui se vendent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de chance de se vendre de toute façon. Et il se trouve qu'il y avait trois éditeurs que ça intéressait ce genre de choses à Genève en même temps, qui sont apparus à peu près en même temps. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu plein d'auteurs genevois. Il y a Vazem aussi. Bon, Vazem, il oscille entre les deux. Il y a Frédéric Peters qui a commencé chez des petits éditeurs, chez les mêmes, à Trabil. Il y a Baladi aussi, qui lui continue chez des petits éditeurs tout le temps. Il y a Andreas Kundig. Alors j'en oublie plein. Il y a Elvis Studios, c'est-à-dire, mais eux, ils font plutôt de l'art contemporain, enfin, du dessin maintenant. Etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de. Mais ça vient aussi beaucoup du fait qu'il y avait ces éditeurs sur place, quoi. Donc c'était super.
D'où te vient ton choix de style graphique qui, comme tu le disais, c'est assez minimaliste, mais du coup ça t'oblige aussi à, enfin ça te crée des contraintes. Tu dois être extrêmement efficace et expressif sans utiliser de texte pour la bonne compréhension pour les lecteurs.
Au début c'était donc pour situer mes dessins, ça ressemble un peu à des ombres chinoises d'une certaine manière, entre les personnages ressemblent un peu à ça, ou alors à des personnages qu'on voit sur les toilettes pour différencier les filles des garçons. Et d'ailleurs, je les différencie de la même chose. Les filles chez moi, elles ont des seins et des cheveux. Bon, des cheveux longs. Sinon, on reconnaît pas. Donc, c'est venu en fait parce que, c'est plutôt Nicolas Robel qui m'a dit, donc celui de Bulb Comics avec qui j'ai commencé, qui m'a dit qu'il trouvait ça intéressant comme approche. Alors, j'ai commencé à en faire. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quand même beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, c'est presque plus. C'est toujours le piège du style. Tu commences à faire quelque chose pendant longtemps, puis après, tu sais faire plus que ça, quoi. Donc, j'ai un peu tendance à plus savoir faire que ça, malheureusement. Peut-être qu'au début, je savais rien faire du tout, donc c'est déjà pas mal d'avoir appris à faire une chose. Mais maintenant, c'est vraiment. J'ai tellement l'habitude de le faire comme ça que ça me paraît vraiment naturel. Et en plus, c'est. Effectivement, ça me... bon, y a certaines choses que je peux pas faire et c'est un peu embêtant. Il y a tu peux pas du tout jouer sur les expressions de visage, par exemple. Enfin, si, mais pas des choses très subtiles. C'est assez, du coup, la gestuelle est relativement grossière dans le style, pas fine, quoi. Mais ça va, j'aime assez encore. Du coup, ça m'est devenu complètement naturel de le faire comme ça, quoi.
En parlant de contraintes, donc, ton implication dans l'Oubapo?
Ça, c'était. J'ai toujours aimé pas mal les jeux formels avec la bande dessinée. Et il y a quelques années, ils ont proposé, le Loubapo, Canal Historique, a proposé que les trois, de nouveau Baladi, Andreas Kundig et moi, on en fasse partie aussi. Alors on a dit oui, mais j'admets que je suis assez peu productif à l'intérieur. Contrairement à Étienne Lécroard, par exemple, qui vient aussi ici, lui qui n'arrête pas. Parce que j'ai de la peine à fonctionner de manière. Loubapo fonctionne pas mal avec des réunions, des gens qui se parlent, etc. Puis ils font des trucs. Je suis assez mauvais pour ça. J'ai plutôt tendance à faire des choses dans mon coin, et puis ensuite on en discute avec les autres si on trouve ça rigolo, quoi. Mais j'ai plus de peine avec les choses très cadrées, ouais.
L'autre fin du monde, donc, on en parlait tout à l'heure avec ces plus de 1000 planches, c'est une sorte de défi que tu t'es lancé à toi-même. Pourquoi pas dans le cadre de Loubapo? Ou alors, est-ce que c'est le projet qui est devenu énorme et qui t'a peut-être un peu submergé au fil du temps?
Non, c'est plutôt la deuxième solution que t'as dit. C'est-à-dire qu'au début, j'avais fait le premier chapitre. J'avais dessiné le premier chapitre comme ça, un peu au hasard. Et j'aimais bien le début d'histoire et je savais pas quoi en faire de la suite. J'avais pas vraiment dit, enfin, j'avais des vagues idées pour la suite, mais pas clair du tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit que pour pas abîmer ce début, la seule manière, c'était de le noyer dans un truc très grand. Comme ça, moi, j'étais sûr qu'il allait pas se. Même si une autre partie plus tard était plus faible à mes yeux, c'était pas trop grave. Donc, c'est une espèce de solution de facilité, entre guillemets, alors que on dirait que c'est le contraire, mais c'est presque une solution de facilité de faire un truc très long. En l'occurrence, aussi, après, au bout d'un moment, je me suis vraiment laissé habiter par. Bon, plein de gens disent ça, c'est presque un cliché, quoi, mais tu te fais un peu habiter par les personnages, le projet, puis ça avance un peu tout seul et tu vois à peu près. Donc, j'ai trouvé la fin de l'histoire assez rapidement. Ouais, je pense que justement quand j'ai recommencé à dessiner, je savais comment l'histoire allait se terminer après le premier chapitre, mais ensuite tout ce qu'il y a au milieu, c'était plus ça. D'ailleurs, on voit en tant qu'il y a des passages qui sont un peu moins qui tiennent un peu moins ensemble à mon avis. Mais bon, voilà. Donc c'était je me suis dit je vais faire quelque chose de très long et puis ça me permettra de développer plein de petits morceaux d'histoire dont j'avais l'idée au début.
Et justement, quand tu commences à créer un bouquin, est-ce que tu as tout de suite une idée très concrète des tenants et des aboutissants, de là où tu veux aller? Ou alors tu te laisses un petit peu mener par ton improvisation au gré des pages?
C'est rare que je sache vraiment ce que je fais. C'est-à-dire qu'en général, je ne sais pas du tout. Quand je commence vraiment la chose, c'est rare que je sache vraiment ce qui va se passer. Mais c'est quand même assez maîtrisé dans le sens où je vois vraiment où je veux aller. C'est pas n'importe. Alors des fois, je change d'avis. Très souvent, j'ai la fin fixée dès le départ. Il y en a un autre que j'ai fait récemment qui fait une centaine de pages, qui est quand même nettement plus court, mais qui s'appelle Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme. Bon, je l'ai dit parce que le titre est long, mais donc ça fait bien de s'en rappeler. Et là, j'ai mis très longtemps à le faire. En fait, j'ai mis 6 ans à le faire parce que je le faisais vraiment petit à petit. Parce que j'arrivais pas à trouver le rythme interne, je sais pas comment on dit. Quand on fabrique un truc, des fois on a un rythme interne qui fonctionne et puis des fois ça marche pas. Alors il faut faire petit à coup, quoi, disons. Et puis là, c'était plutôt par à-coup, mais je savais tout de suite comment l'histoire allait se terminer aussi.
Donc, d'accord.
Il fallait remplir le. Voilà.
Et donc, au-delà du scénario, de l'histoire, la construction de tes planches, ça reste quand même extrêmement graphique. Est-ce que tu as cette idée-là déjà dans ta tête, tout de suite, tu vois la forme générale, ou alors est-ce que tu dois revenir plusieurs fois sur la planche?
Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, malheureusement. Je crois que je le fais plus ou moins au hasard et qu'à la fin, des fois, ça tombe bien, quoi. Non, j'ai de la peine. J'arrive pas. J'ai beaucoup de peine à refaire quelque chose. Je suis très feignant de ce côté-là. Donc, à moins que ce soit quelque chose que je trouve qui est vraiment pas réussi et que ça va pas, je le refais pas. Mais au bout d'un moment, on s'habitue. J'ai un système de cases un peu spécial, effectivement. Mais de nouveau, ça devient assez naturel au bout d'un moment quand on l'a fait depuis un certain temps. Donc.
Oui, tu te crées ton système après tu es à l'aise dedans.
Exactement. Bon, faut faire attention parce qu'au bout d'un moment c'est un peu trop facile et c'est moins intéressant à faire. Après, je sais pas si c'est plus intéressant à lire, mais à faire c'est moins drôle quand on sait, quand on a l'impression qu'on pense tout le temps à autre chose, quoi, quand on le fait, vu que c'est tellement automatique, quoi. Mais voilà, non, alors oui, je réfléchis quand même à la mise en page petit à petit, mais c'est pas très très élaboré, disons.
Côté fanzine, tu utilises rarement de texte dans la partie fanzine, contrairement aux bouquins qui sont plus conséquents. Ta relation au texte, tu la qualifierais comment ?
J'avais de la peine au début quand je faisais des bandes dessinées, j'avais de la peine à faire des bandes dessinées. Je faisais soit des choses en récitatif, c'est-à-dire qu'il y a une image, un texte dessous, soit pas de texte du tout en fait. Et j'ai mis un moment à réussir à faire ça de manière que moi-même me satisfaisait plus ou moins. Et alors je sais pas si c'est les fanzines, souvent si tu parles des fanzines qui étaient sur mon site internet par exemple, il y en a beaucoup qui sont assez anciens. Et, enfin, pas tous, mais certains sont assez anciens et du coup partent de cette époque-là où je faisais plutôt des choses muettes. Mais il y a aussi le fait que une histoire muette, c'est plus difficile à tenir sur le long. C'est beaucoup plus adapté, enfin beaucoup plus facile à faire, on va dire, et adapté à des histoires courtes. Donc, comme dans les fanzines, je fais des histoires courtes ou alors des trucs moins élaborés ou plus. Et ça permet. On peut être beaucoup plus dense aussi. C'est-à-dire qu'avec le texte, je trouve que c'est tout de suite lourd. Enfin, bref.
T'as plus de liberté. Enfin, tu te sens plus libre d'exprimer ce que tu veux sur du format court en format fanzine.
Bon, en fanzine, par définition, on peut faire strictement n'importe quoi. Donc, on peut vraiment s'exprimer comme on veut, de toutes les manières qu'on ait envie. On peut même faire des choses extrêmement mauvaises. Mais ça nous arrive tous sans arrêt, d'ailleurs, la fabrique de fanzine. C'est trop long.
C'est moi qui suis long. Bon, donc une petite question pour finir. Si je te dis Trondheim,
j'aimais beaucoup avant. J'aime un peu quand même beaucoup moins maintenant, malheureusement. Et je trouve je le connais aussi un peu personnellement, donc c'est un peu bizarre de parler des gens qui sont pas là. Mais malheureusement, les deux là, d'ailleurs, ces deux garçons sont quand même Svar et Trondheim sont quand même drôlement. Ils se répètent quoi, beaucoup. Ils pédalent un peu dans la semoule à mon avis. Avec de temps en temps toujours des choses assez bien, mais c'est un peu dommage qu'il devrait arrêter pendant 2 ans, je pense.
Petit conseil.
Pour voir, non mais juste pour voir ce qu'ils ont à dire après quoi. Mais bon, c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire évidemment. Mais je trouve malheureusement qu'ils sont rentrés dans un processus justement.
Justement, en parlant de processus, est-ce que toi tu as pas envie de sortir de ton système de petits personnages, de petites cases et tout ça, pour aller découvrir autre chose, te lancer dans une nouvelle aventure?
Ouais, ça m'arrive. J'ai fait un livre, je l'ai pas avec moi. Enfin, si, je l'ai en haut là. J'ai fait un autre livre avec des dessins assez différents que j'ai auto-édité aussi. Je vous le montrerai après si vous voulez. Mais c'est le piège du style, comme je disais au tout début. C'est difficile d'en sortir. Bon, alors c'est restrictif, mais en même temps on y est assez libre. Donc ouais, je me sors de ça en faisant des choses très différentes. J'ai un livre de 1000 pages et un livre de 24 pages. C'est un qui est en grand format en couleur, celui qui va sortir. J'ai l'impression que malgré que le dessin soit tout le temps du même genre, du même style, je tente de faire des choses assez différentes. Alors des fois, j'y arrive pas. Mais effectivement, je trouve que ce serait bien d'en sortir une fois, un petit peu, peut-être.
Dernière petite question concernant ta relation avec l'éditeur.
Elle est super. Atrabil, je les aime beaucoup. C'est des éditeurs parfaits pour moi, en tout cas. Malheureusement, en ce moment, comme la plupart des éditeurs, ils ont des problèmes de sous partout. Plus personne ne vaut rien, en gros. Et eux non plus, et c'est surtout pas moi avec mes machins qui va remonter enfin bref, j'en vends pas beaucoup non plus. Mais non, c'est excellent. Si je pouvais faire que des livres chez eux, ça m'irait très bien.
Tu arrives à vivre correctement de ton travail quand même ?
Non, pas du tout. Non, je travaille d'autres choses. En fait, j'enseigne parallèlement. Je suis enseignant, je sais pas comment on dit en France, suppléant ou remplaçant.
Enfin. Oui, titulaire remplaçant, brigade, zile.
Ouais, je sais pas les termes en disant. Mais j'ai. Voilà. Il se trouve qu'à Genève, c'est très bien payé, alors qu'en France, c'est pas très très bien payé en général. À Genève,
je confirme.
Tu fais ça ?
On est tous les deux enseignants avec Thio.
Ouais, à Genève, ça va. Moi, je m'en sors en faisant 8 heures d'enseignement par semaine. Donc, ça va. Je m'en sors. Je gagne pas beaucoup de sous, hein, mais j'arrive à vivre avec ça.
D'accord. Et on termine avec ta dernière découverte en BD.
Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a beaucoup plu ? Attends, malheureusement. Non, mais en fait, c'est ridicule parce que c'est pas du tout une découverte récente. C'est que ma copine avait depuis des années Love and Rockets à la maison, que j'avais jamais lu en fait. Et j'ai Locas en particulier. Alors bon, j'aime bien en général tenter de lire en version originale, mais là c'était en français. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bien. D'ailleurs, Atrabil va sortir un livre de Gilbert Hernandez bientôt, qui s'appelle La saison des billes, je crois.
Je suis avec Johan Trojanowski, un auteur de livres jeunesse principalement, et qui a sorti il y a peu un album tout public. Bonjour Johan.
Bonjour.
J'avais lu Rouge que tu avais édité chez Macaca. D'ailleurs, tu as sorti d'autres livres chez Macaca, petit format il me semble, avec les mêmes personnages, si je ne dis pas de bêtises. tu t'es lancé vers la jeunesse tout de suite, c'était une volonté dès le départ.
Alors oui, donc chez Makaka, il y a une série qui s'appelle Rouge, donc il y a 3 tomes, et donc c'est une collection qui était pour les enfants. Et donc oui, c'est vrai que, enfin, j'ai toujours aimé la littérature jeunesse, donc j'ai commencé à illustrer des livres de poésie pour les enfants. Et voilà, donc c'est un milieu qui me plaît bien, un public qui me plaît bien aussi. J'aime bien rencontrer après les enfants sur les festivals, en animation, tout ça. Et mais bon, après, c'est pas forcément une volonté. C'est un peu les histoires qui me viennent, en fait. Voilà. J'essaye que ce soit plus tout public que juste pour enfants. Voilà, que les adultes ne s'ennuient pas quand ils doivent lire l'histoire à leurs enfants. Voilà.
Au niveau du rendu, c'est un peu entre la BD et l'illustration. C'est la façon que tu as trouvé de raconter ces histoires qui te semblait idéale. Ou est-ce que tu, enfin, pourquoi est-ce que tu as fait justement ce mélange un peu entre les deux univers?
Bah, c'est parce que c'est moi, ces deux univers que j'aime beaucoup. Je suis un grand lecteur de bande dessinée, donc voilà. Bon, moi, depuis toujours, je voulais faire de la bande dessinée. Mais c'est vrai que voilà, je viens quand même d'un milieu plus d'illustration, donc c'est vrai que ça s'est mêlé un peu naturellement dans mon travail. Voilà, après c'est une manière, enfin c'est comme ça que j'aime bien travailler, donc voilà, utiliser les crayons, les pastels, toutes ces choses là donc chose qu'on peut retrouver pas mal en illustration jeunesse. Voilà.
Donc tes bouquins sont sortis chez Makaka, c'est un petit éditeur. Est-ce que tu avais essayé d'approcher d'autres gros éditeurs jeunesse, ou est-ce que le projet s'est fait parce que tu connaissais l'éditeur et que c'est pour ça que tu travailles avec eux?
Alors ça s'est fait un peu naturellement parce que j'ai travaillé avec eux sur 30 jours de BD. Voilà, donc j'ai commencé à proposer des petites histoires et de fil en aiguille, quand ils ont lancé leur collection pour les enfants, les Bouillabisous, donc bah, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une série pour les enfants, voilà, donc j'ai accepté. Voilà, donc c'est venu comme ça, j'ai pas cherché spécialement d'autres éditeurs, ça s'est fait naturellement comme ça.
Donc là, tu as sorti un album un peu plus tout public, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, donc est-ce que tu peux nous le présenter?
Oui, alors ça s'appelle Pomme ou les petites choses, c'est à l'Atelier du Poisson Soluble, qui est un éditeur jeunesse justement, enfin littérature jeunesse, et qui se lance un petit peu dans la BD. Et en fait, c'est des histoires que j'avais commencées justement sur 30 jours de BD. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un désert et qui va rencontrer des personnages, des objets, tout ça, et qui veut un peu jouer avec. Donc c'est une BD muette, on va dire noir et blanc, enfin niveau de gris, avec quelques touches de couleur justement quand elle croise des objets, tout ça, voilà. Donc c'est, on va dire, la BD poétique entre guillemets. Et voilà, donc c'est plein de petites histoires qui se passent dans ce désert et qui je joue, j'avais envie aussi de jouer avec les codes de la BD, donc il y a des jeux avec le lecteur, voilà, avec ce genre de choses.
La BD muette, c'est un exercice assez difficile, parce qu'il faut vraiment faire assez de dessins pour raconter les choses, mais pas trop, pour pas trop noyer. Ça t'a demandé beaucoup de travail pour t'adapter à ce format-là?
En fait, ouais, c'est un travail. Il y a pas mal de travail, parce que voilà, tout doit passer par l'image, on peut pas céder du texte pour faire passer des... Enfin, raconter l'histoire, donc mais enfin c'est un travail qui me passionne en fait de plus en plus, et je pense que je vais en faire de plus en plus des BD muettes, parce que voilà, il faut vraiment réfléchir à la manière dont raconter, la narration, tout ce genre de choses, et qui pour moi sont vraiment très importantes en BD, quoi.
Tu t'es inspiré d'autres BD muettes pour essayer de décoder les méthodes, les techniques?
Alors je suis pas forcément inspiré, enfin j'avais pas de livre à côté pour voir un petit peu, mais bon, j'ai vraiment adoré Pinocchio de Winchless, donc voilà, moi c'est vraiment, pour moi c'est une œuvre majeure que j'adore, et c'est, voilà, c'est juste magnifique, donc voilà, ça fait partie, ouais, des, un peu des modèles que je peux avoir, je me dis tiens, j'aimerais bien arriver à un truc comme ça un jour, pourquoi pas, et en muet ça marche très très bien, quoi.
Il faut travailler sur des plus grands formats. Ouais. ta dernière découverte BD, c'est quoi?
Ma dernière découverte, alors j'en lis beaucoup, je veux dire c'est Fable. Le comics, voilà, Fable, voilà, absolument génial.
Très très bonne BD. Tu lis en VO ou en VF?
Comment?
Tu lis en VO ou en VF? En version française ou en anglais?
Je suis nul en anglais. Salut, ça va? Non, je suis absolument nul en anglais, mais je suis désolé, je le dis tout en français.
Bonjour et bienvenue au podcast BD Mensuel, le One Eye Club qui est très corporate. On a tout mis dans le désordre, mais c'était bon quand même.
Ouais, pas mal.
Ouais, enfin surtout certains sont corporate. Ouais, voilà, parce qu'en fait, hier, il y a eu une histoire de repas où Pied et moi, on était vachement en place, on était entre les armateliers et Loïc Jonigo, Petit Luc, et le monsieur était derrière tout seul avec personne.
Il n'y a pas d'amis.
Bah en fait, c'est surtout c'est que voilà, c'est le dernier arrivé, forcément, bah, il n'est pas à la table des grands. Quoi. D'ailleurs, Bruno ne voulait même pas qu'il lui parle, hein, parce qu'il lui a dit si tu veux me parler, petit gars, tu passes par tes intermédiaires. Là, parce que moi, je te parle pas, je te connais pas.
Mais moi, je lui ai prêté mon téléphone, il était absolument ravi, on a prévu de se faire une bouffe ensemble. Non, pas du tout, je raconte n'importe quoi.
Tu peux couper, je crois.
T'es sûr ? Moi, j'aime bien les conneries comme ça. Ah oui, sinon, si aussi, il a fait écouter donc. Notre critique de badass et à ce moment-là en fait Bruno Bessadi a jeté le Galaxy S3 de Tizak et l'a piétiné violemment. On n'a pas trop compris s'il avait aimé ou pas.
Et Pierrick a eu une tache toute marron à la fin de son pantalon, je sais pas pourquoi.
Aïe.
Allez, on arrête hein. Ça sera juste dans le off ou dans les bêtisiers. Bonjour et nous sommes toujours en direct du Festival des Calanques et des Bulles et nous recevons donc Cocor pour plusieurs choses qu'on a déjà chroniquées, enfin une seule chose qu'on a chroniquée on va dire dans notre émission, donc Supplément d'âme que vous avez fait donc en 2012, vous étiez au scénario et au dessin. Vous avez aussi fait, tu as aussi fait, c'est vrai qu'on doit faire le tutoiement, ça te dérange pas si je te tutoie ? Mon copain secret, mais là du coup c'était juste le dessin et le coloriage, au scénario c'était Loïc Deville. Et Les Voyages de Gulliver aussi, au scénario et au dessin, qui est une aventure en trois.
C'est une adaptation, mais j'ai vraiment réécrit Les Voyages. Je me suis servi de la trame du personnage sur lui, son désir de voyage, mais j'ai changé. Enfin, les géants, ce n'est pas les mêmes. Et voilà. Par contre, j'ai essayé de garder le propos, c'est-à-dire de dénoncer des choses horribles. Parce que c'était ça le roman à l'époque, quoi. C'est pas un gentil, des gentils petits lilliputiens. Enfin, ça, il y a eu tellement d'adaptations de Gulliver qu'en lisant le roman, je me suis aperçu que voilà, c'était plutôt sombre, noir et horrible à toutes les pages. Par contre, très bien fait et pour l'époque, admirablement fait. Voilà, l'auteur Swift se permettait de voilà plein de choses. Il a pu se le permettre justement parce qu'il inventait. Il inventait des pays. Il aurait critiqué le roi anglais du côté de la religion les gens de l'époque ou bref il se serait fait enfin surtout pour, je sais pas c'est le 17e siècle ou 16e 17e 17e je crois ouais
d'accord
ouais,
okay. Mémoire c'est 1680 ouais.
Enfin bon donc voilà comme a pu faire peut-être sûrement La Fontaine enfin les fables de La Fontaine place des animaux, tout le monde rigole. C'était pour... Bon, bref, voilà. Donc là, oui, j'étais tout seul, mais c'est une adaptation. Sinon, il y a d'autres albums, Caddie, Balade Balade et Le Commun des Mortels, chez Vendouest, tout ça, toute cette série-là, même Les Gulliver. Et donc, oui, j'étais tout seul. J'adore être tout seul.
Ça, c'était une autre question, là. Là, du coup, j'ai plus de plan, là. Le choix justement des voyages de Gulliver, c'était parce que c'était une lecture d'enfance qui était revenue ensuite ou
même pas parce que je suis pas un grand lecteur du tout. Je sortais de faire l'album Le Commun des Mortels, donc j'avais trois albums chez Vendouest là. Et ben comme bien souvent, quoi, on est en train de terminer l'album en cours, vu que moi j'avais pas de série avec un héros, avec tout ça. À chaque fois, c'est des histoires complètes. Bah, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que je vais faire après ? Et j'avais fait déjà quelques adaptations sur des histoires tirées du magazine Hitchcock. Hitchcock présente, je sais plus. Enfin, c'est ancien tout ça. Il y avait une petite série à la télé, Hitchcock, et puis un magazine. Voilà. Bon, c'était des scénarios qui n'étaient pas écrits par lui. Hein. C'était son nom. Mais bon, c'était surtout des petits polars, des voilà, il y avait l'esprit Hitchcock comme ça avec le suspense. Et donc il y avait eu un projet chez Vendouest, malheureusement qui n'a pas continué, un numéro 1, donc là qui regroupait, je sais plus, 5-6 auteurs qui adaptaient 3-4 histoires. Ça m'avait bien plu ce petit jeu-là, et puis voilà, qu'est-ce que je vais faire après Le Commun des Mortels ? Tiens, pourquoi pas une adaptation ? Je m'en suis un peu mordu les doigts, j'avoue. Enfin. Ça m'a énormément plu de faire ça, mais parce que d'un seul coup, en discutant comme là dans un salon ce week-end, en discutant avec des collègues et amis, je m'apercevais que tout le monde était en train de faire des adaptations déjà. Et puis bon, je sais pas, c'était très bien de faire ce Gulliver.
Et du coup, justement, enfin, en regardant un petit peu ta biblio, il y a beaucoup d'histoires en un seul tome. Est-ce que tu n'aurais pas envie de repartir maintenant sur quelque chose qui serait un petit peu plus au long cours, un peu une aventure à raconter en plusieurs tomes, justement, un petit peu feuilletonnant?
Non, je crois pas. Le prochain fait pas suite à Supplément d'âme. On va retrouver une ambiance similaire. Déjà, je vais pas repartir sur le rêve, mais si dans Supplément d'âme, la question se pose, est-ce que je suis un homme poisson, un homme oiseau? Bon, le prochain, je pars directement, je raconte la vie d'un homme poisson. Bon, voilà, mais ça. Et ce truc de faire une série, moi, j'ai été élevé à ça. Je suis le premier surpris, en fait. Pourquoi je me suis pas lancé là-dedans? Bon, les années aussi ont fait que, peut-être, sûrement. Mais très rapidement, le premier album, Caddy. Enfin, j'avais fait d'autres albums avant, dans une autre vie. Mais le Caddy, non, ça se terminait. Pourtant, moi, j'ai été élevé à Lucky Luke. Et mon rêve, à l'époque, quand j'étais gamin, c'était d'avoir un héros et de faire la 36e, la 37e, la 48e, la 52e aventure de mon héros. Je m'entraînais à ça, j'essayais de trouver le personnage. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et maintenant, je ne me verrais pas du tout faire ça. Vraiment, ça me plaît de... Il y a un lien. Après, je pense qu'il y a des gens qui... Pardon, il y a l'univers, mais je me suis amusé de me resservir de personnages déjà dans Caddy, Balade, et Le Commun des Mortels. Il y a un barman qui est dans les trois albums. Ça se fait pas du tout suite, il y a rien du tout. C'est juste que... On pourrait comparer ça, et je compare souvent ça, à un réalisateur qui est bien travaillé avec un acteur. Bon, à part moi, je lui ai donné le même nom dans les trois albums. Mais c'est très rare que les lecteurs m'ont dit « Ah oui, j'ai vos albums, les premiers, là, de chez Vendouest, là. » Et vous êtes amusé à utiliser le même personnage de barman. C'est arrivé quelques fois, quand même, mais c'est rare. Les gens ne voient pas. Non, ça, ça me plaît vraiment de faire comme ça, d'être... de plonger dans un bouquin, puis voilà, il se termine. Il y a tellement de portes ouvertes dans mes scénarios. Ils se rejoignent tous, mes albums, à un moment, je pense. Mais ça sera plus maintenant, en tout cas, non. J'en ai rêvé tout gamin, mais vaut mieux pas dire que jamais ça, on verra. Mais je pense pas partir. Il pourrait y avoir un album, oui, en un ou deux tomes, mais pas un héros, comme je disais. Oui, voilà, sur une série... Je suis trop vieux maintenant.
Justement, tout à l'heure, tu disais que tu aimais travailler tout seul. C'est un choix pour pouvoir tout gérer de A à Z, ou c'est plutôt ton style de vie qui fait que tu aimes bien justement te retrouver seul face à ta planche et écrire ta propre histoire sans avoir un intervenant?
Déjà, de toute façon, même en travaillant, quand j'ai travaillé avec Loïc Dauvilliers, et bon, il y a le travail de découpage au début, vu qu'on travaille à deux sur l'avancement du travail, je vais lui montrer. Mais après, de toute façon, je me retrouve tout seul à ma table. De toute façon, voilà. J'ai travaillé en atelier deux fois, enfin sur deux périodes, je veux dire, et ça s'est très bien passé. Le fait d'écrire, moi maintenant, ça s'était fait comme ça, le désir d'écrire. Je me sentais mieux tout seul dans l'atelier. Voilà. Quand il s'agit de dessiner, en fait, oui, je pourrais être en atelier, mais écrire, et non, mais j'ai mis tellement d'années à faire le pas, et ce désir d'écrire, je l'avais vraiment, mais j'arrivais pas, et donc j'ai mis tellement de temps que, enfin, je blague tout à l'heure, ouais, j'aime bien être tout seul, mais c'est vrai, j'ai envie de continuer à développer un univers que je sens là, j'ai envie qu'il sorte, essayer de le présenter aux gens, tout ce que j'ai dans ma petite tête.
Et justement, les deux fois où tu as travaillé avec un scénariste, c'était donc Loïc Dauvilliers. Est-ce que tu n'as pas envie de travailler avec d'autres Est-ce que tu n'as pas des souhaits, on va dire, particuliers, de te dire, tiens, j'aimerais bien travailler avec telle personne?
Oui, j'en ai un énorme. Ça fait 10 ans que je le drague. On peut dire ça. Et voilà, dernièrement, il est question que ça se fasse. Mais je ne dirai ni qui c'est. Parce que j'espère que ça va se faire. Il est très pris. Donc, bon, voilà. Mais non, je ne suis pas fermé. Ça me plaît de faire ça. de continuer à bosser mon truc. Mais non, je suis pas du tout. Bah, là, quand Loïc est venu me voir, il m'a posé cette question-là. Il me dit bon, il vient me voir parce qu'il aime bien mon travail, ça fait plaisir. Mais surtout, il me dit mais je vois que tu travailles tout seul, tu veux peut-être pas, parce que voilà, j'aimerais bien, j'ai une proposition à te faire. Je lui dis bah vas-y, de toute façon, si ça me plaît, je le fais. Enfin, si ça me plaît, je le fais. Il faut voir après les délais, tout ça, mais je veux dire, si ça me plaît, je le ferai. Là, j'ai la chance aussi de faire que des projets que j'ai voulu. Et même du coup, avec Loïc Devilliers, quoi. Il me raconte l'histoire, j'étais vraiment touché par ce qu'il me racontait. Ouais, je lui ai dit, ouais, j'ai vraiment envie de le dessiner, enfin de les dessiner, puisqu'il y en a deux depuis, Mon Copain Secret et Grosse Bêtise, donc.
Ta maison d'édition, elle t'a jamais demandé de travailler avec un tel ou un tel, sans forcément que tu en aies trop envie au début et,
Non, ils ont vu le spécimen, ils se sont dit, celui-là, on va le laisser tranquille, de toute façon, waouh. Moi, dès le premier bouquin, je pensais que j'écris, j'ai mis du temps, je disais, mais après, j'écris une histoire, je me lance là-dedans, j'avais l'impression de, pas comme tout le monde, mais bon, voilà, je raconte une histoire. Mais très vite, la réaction, c'était, dans ma façon de découper, de raconter les choses, c'est vraiment, vous avez un univers bien à vous, ça revenait sans arrêt. Et y a vous qui racontez les choses comme ça, bon, ça fait plaisir, mais sur le coup, moi, je cherchais pas une écriture, forcément, enfin, vaut mieux pas se poser la question. Je pense pas qu'on se la pose, enfin, les autres auteurs non plus. Et puis, bah, quand commence à s'aligner quelques bouquins, bah, ça revient, quoi. Cocor est unique.
En feuilletant justement quelques planches sur internet, parce que enfin là je t'avoue, hein, moi j'ai juste lu Supplément d'âme pour l'instant. J'ai l'impression que la contemplation, la tranquillité, en fait une certaine poésie se retrouvait dans un petit peu dans la suite de ton œuvre. C'est quelque chose qui te poursuit, c'est quelque chose que tu as aussi comme choix dans d'autres passions, les films ou la littérature.
C'est surtout les films. Non, j'ai du mal à rentrer dans un roman, un bouquin. J'ai du mal, je sais pas. Et ma nourriture, c'est le cinéma, vraiment. C'est vraiment le cinéma. Voilà.
Dans le cinéma, justement, dans des films poétiques, on va dire, des choses qui t'inspirent, qui pourraient te donner des idées.
Oh, tous les genres, je pense. Tous les genres, parce que je sais pas, même le film d'action, le gros truc, si on me fait croire aux personnages plus qu'aux explosions d'hélicoptères, ça me dérange pas s'il y a toutes les 5 minutes un hélicoptère qui explose. S'il y a une belle histoire, c'est pas belle, mais c'est me faire croire aux personnages, quoi. Même un James Bond qui traverse les flammes, la boue, machin, et son smoking est impeccable, ça, j'y crois. Toi, parce que, je sais pas, dans la manière de raconter, je me barre dans ce truc-là. Après, oui, évidemment, ça va être plus... J'adore les comédies sentimentales. Bon, ça va être... C'est refait en studio, heureusement. Oui, il y a une doublure, quelqu'un qui avec une voix plus... Non, une voix d'hôtesse de l'air, quelqu'un qui va pouvoir refaire tout ça bien. Non,
on va chercher une hôtesse de l'air, on va lui demander de faire la voix. Il faut qu'on trouve l'hôtesse de l'air, ouais. On va chercher.
Ouais, moi, ça ne me dérangerait pas. Hein.
Ouais, c'est pas gagné.
Oui, non, j'aime bien, oui. C'est toujours le problème après de citer des titres de films. J'aime le cinéma des années américains comme français, enfin, européen, on va dire, des années 30, 40. J'adore ça, les comédies de cette époque-là. Mais jusqu'à plus récemment, là, je suis très curieux. Je vais toutes les semaines au cinéma. Pourtant, dans ma ville, il n'y a pas... Mais ça va quand même. Il y en a un qui a fermé, il y en a un qui tient, il y en a un autre, un petit. Bon. Après, parce que je parle de petit cinéma, parce que sinon, après, évidemment, à la sortie de la ville, il y a le gros Gaumont tout pourri. Ah ouais, bah les sièges sont confortables, mais alors, avoir quelqu'un qui bouffe du pop-corn, je peux pas. Rentrer dans un cinéma, comme on a l'impression de rentrer dans une boutique de bonbons, c'est horrible.
Pourquoi Dublin, en fait, pour le supplément d'âme? Ça a été dans tes recherches, tu avais envie de partir dans cette ville-là ou c'était...
J'avais surtout envie d'un changement. Un changement, c'est-à-dire que dans Gulliver, encore on pouvait dire que inventer les décors, c'était logique. Mais dès les premiers, Caddy, balade. Alors que dans balade, c'est un extraterrestre qui vient visiter la planète. Donc les personnages vont voyager, il vient visiter pour l'acheter. Il vient acheter la planète, donc on lui fait visiter. Voilà. Et je crois qu'à un moment, il y a les statues d'Île de Pâques. Je suis tellement feignant que je n'ai pas été voir à quoi ça ressemblait. J'ai dessiné des grosses têtes. Voilà. Je dis, c'est feignant pour la doc, tout ça, les immeubles. Dessiner un immeuble. Je ne me posais pas trop de questions. Et c'est vrai que pour Supplément d'âme, j'ai eu envie d'imprégner comme ça mon travail, mais de lieux qui existaient. Enfin, pour m'enrichir, moi. J'avais envie, dans mon dessin. Et Dublin, donc j'y avais été il y a des années de ça, en Irlande, j'avais fait un tour d'Irlande. Mais de toute façon, toutes mes histoires naissent au bord de la mer, parce que j'habite au bord de la mer. Donc j'ai trouvé l'idée de supplément d'âme, comme d'habitude, assis à regarder l'horizon, chez moi. Ça pouvait se faire chez moi. Mais j'ai eu envie d'un petit voyage, et donc j'ai pensé à Dublin. Et c'était magique, incroyablement incroyable. Bon, ça, c'est pas un livre qui parle de l'Irlande. Si vous l'avez lu, vous en êtes rendu compte. Mais parce que l'endroit où va s'asseoir le personnage dans le livre, ça raconte l'histoire d'un personnage qui va s'asseoir tous les jours au même endroit. Et ben moi, les deux fois où j'y étais, je sortais de mon hôtel, j'avais trouvé cet endroit-là et j'allais m'asseoir à cet endroit-là. Donc je me suis même imaginé des gens qui devaient se dire « Mais qu'est-ce qu'il fout, lui, là ? Il est là tous les jours, à cette heure-là. » Un petit peu comme dans l'histoire. Mais c'était magique. Après, donc j'ai pris pas mal de photos. Il y a des décors qui reviennent. Et puis d'autres, je me suis quand même permis d'inventer. Il y a une petite maison, là, où vit la fille qui fait des sculptures, qui n'existe pas. Le lieu, avec les grues, le chantier, l'immeuble... de bureaux modernes là derrière, tout ça, ça existe, mais pas pour la petite maison. Mais voilà, après, moi, je suis pas bon, comme un réalisateur de cinéma qui va. Voilà, bah, ouais. Je fais mon Woody Allen. Je vais faire toutes les capitales. Non, le prochain se passe chez moi. Chez moi, tu veux que je dise où c'est, oui. Quoi. Ouais, allez, j'habite au Havre.
J'y suis né. Mais je n'y suis pas resté longtemps. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé dans Supplément d'âme, parce que ça m'est paru comme une évidence, c'est Sophie la girafe. Parce que il y a ce détail de cette entreprise qui a...
Je ne demande pas de la dessiner, s'il te plaît.
D'accord.
Ça fait 4 fois qu'on me demande, je la loupe. Je ne sais pas la dessiner sans modèle. C'est horrible que les gens qui viennent et qui ont été... Oh, j'ai adoré, j'ai fait des dédicaces pour des Sophie, par exemple. Vous pouvez me faire Sophie la girafe. En plus, je me dis la pauvre, elle s'appelle Sophie, tout le monde a lui. Mais bon, mais elle continue, elle veut une girafe. Mais chaque fois, je la loupe. Me demandez jamais. Non.
D'accord, j'en ai plein chez moi des Sophie en ce moment. Non, la question, c'est que le coup du SAV de Sophie la girafe, en fait, où les mecs, ils sont payés à rien faire, en fait, j'ai trouvé ça tellement évident. Comment est-ce que ça t'est arrivé, c'est cette idée de se dire, mais voilà, j'ai un produit, les mecs qui bossent au SAV, ils n'ont rien à faire, en fait.
Il fallait un produit. Je suis dans l'écriture du scénario. J'amène un personnage dans mon découpage, dans les premières pages, un personnage qui arrive de France, qui vient travailler dans les bureaux à Dublin, là, de sa société. Je ne sais plus comment je présente ça. Dans le début de l'écriture, quoi. Et je me dis, bon, d'accord. Bon. Je sais très bien que le scénario va pas tourner autour de ça, mais je dis, tiens, il va rencontrer 2-3 collègues, enfin, ça va discuter de qu'est-ce qu'il pourrait vendre. Bon, je voulais pas me prendre la tête avec ça. Matériel de bureau, un truc à la con. Mais bon, quand même, ça me trottait. Je dis, ouais, enfin bon, attends, ouais. J'adore ça, je parlais de cinéma, bon, parce que moi, mes références vont là-dedans, mais dans des scénarios, quand jusque dans les petits détails comme ça, je me dis, oh, c'est une super idée, un petit, comme un personnage secondaire, toi qui va, quand les gens vont dans l'écriture d'un scénario, bosser jusqu'à le moindre truc, et le personnage secondaire qui est juste, qui fait une apparition, qui a deux phrases à dire, et voilà, il fait vivre le film autant que les autres. Enfin, bon. Donc là, pour un personnage et pour des éléments de décor, ça peut être pareil. Bon, là, un produit, quelque chose, quelqu'un qui vend, bon, qu'est-ce qu'il va vendre ? Je me suis dit, bon, quelque chose qui serait facile à vendre. Je ne sais pas comment c'est venu. C'est marrant quand c'est venu comme ça, voilà. Mais vraiment, mais parce que voilà, tu cherches une idée, tu es vraiment le pêcheur. Donc, tu envoies le petit bouchon. Et le poisson que tu veux, le truc que tu veux, bah y a, c'est plein d'éléments que tu mets. Cette nourriture là que tu mets au bout de l'hameçon, bah moi c'était une suite de mots. Un produit facile à vendre, un produit où il n'y a jamais de problème, où il n'y a jamais de retour, un produit. Et puis par trucs comme ça, d'un seul coup, pouf. Non, c'est vrai, c'est né comme ça.
Et surtout que je trouve que c'est un produit qui a une image de marque forte. En termes de bonhomie, en termes de gentillesse, on n'est pas dans. Enfin, ça donne une température, ça donne une chaleur, c'est... une ambiance.
Oui, quand j'ai trouvé ça, quand je trouve. Enfin, après. Collé, quoi. C'est presque une évidence. Je fais des calipettes par terre chez moi. Pardon, là, c'est vrai. Ça m'est arrivé. Oui, je sais pas, quand je trouve une bonne idée. Non, mais je... Ouais, bah, c'est ça. Après, on peut se tromper, on peut complètement se tromper. C'est quand t'es là dans l'écriture d'un truc, tu te dis, ouais, c'est ça, je suis sûr que c'est ça, tu t'étales le truc, et puis finalement, tu fais lire, ou même à ton éditeur, les gens qui suivent le projet, puis tout le monde se regarde. Là, quand la personne qui suivait mon projet, enfin, Alain David, que je connais très bien, mais voilà, il a éclaté de rire. Il savait que je cherchais un produit. Il me dit, même lui, peut-être qu'il m'avait dit, ne prends pas la tête avec ça. Toi, bon, je sais pas, il a qu'à, je sais pas. Et puis toi, je lui dis, j'ai trouvé le produit, je l'appelle ou je lui dis, bah ouais, oui. Il y avait... Et puis l'évidence de ce truc, enfin chaleureux, enfin sans problème, d'évidence sans problème, tout le monde le connaît. Et j'ai failli faire l'erreur. J'ai failli faire l'erreur de lui donner un nom. Un autre nom, je veux dire, comme ça s'est fait, il y a eu des imitations de Sophie dans les marchands de jouets, enfin de Chine, pour enfants ou quoi. On va voir des girafes qui vont s'appeler, je sais pas, Émilie ou bref. Et j'ai failli à un moment, ouais, ils en parlent peut-être dans des dialogues et puis ah tiens, il y a un carton d'Émilie à livrer ou de je sais pas quoi. Puis je dis mais non, c'est elle quoi, c'est elle. Je dis rien mais c'est elle. Enfin c'est elle. Je laisse penser que c'est elle. Il n'y a pas besoin, de toute façon. Mais c'est pour ça que les lunettes de soleil me faisaient rire, même au début, quoi. Parce que l'autre, il trouve cette idée pour passer inaperçu, parce qu'évidemment, dès qu'elle apparaît, tout le monde replonge. Enfin, lui il baigne dedans, apparemment. Oui.
On se baigne. Et au niveau de ta technique de travail, comment est-ce que tu fonctionnes quand tu. Au niveau du dessin, au niveau du scénario, je vous ai un petit peu expliqué, au niveau du dessin.
Changement aussi, si. Enfin, si pour la première fois, donc, je décidais de partir en voyage pour la documentation et m'imprégner d'un lieu et tout ça. Là, je savais qu'il y avait des scènes de foule, par exemple. On est toujours dans l'écriture, dans le début. Je fais le découpage. Je fais mon découpage un peu comme d'habitude, avec des petits feutres noirs et des scènes de foule, parce que bon, voilà, l'histoire démarre comme ça. Je sais que c'est dur à faire, après au propre les scènes de foule. Enfin pour moi, hein. Je me dis ouais mais bon, faut que ça, je sais pas, pour la fluidité, faudrait que. Et depuis quelques temps, avant Supplément d'âme, je faisais mes dédicaces au crayon, en utilisant un jus, un petit jus de l'eau de rinçage. C'est de l'eau de rinçage quand je fais de la peinture, je garde mon eau, je ne jette rien. Non c'est vrai, je gardais ça. Et bah, Gulliver qui est en couleur, c'est la technique ancienne, je passais par des bleus, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, enfin bon bref, je faisais ma petite peinture. Et donc quand on fait de la peinture, à la fin de la journée, le petit pot à eau, il est sépia, marron. De toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, à part si on fait que du bleu, évidemment. Mais en faisant toutes les teintes, en faisant des beaux bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, ou tout ce qu'on veut bien, à la fin de la journée, l'eau est marron. L'eau, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de toute façon de l'encre diluée. Donc je mets ça dans un gros bocal et je partais en dédicace avec ça. Je m'étais habitué depuis des années, j'ai un petit jus. et puis je fais des ombres. Je bossais au crayon. Et donc là, pour Supplément d'âme, et c'est effectivement changement de technique, je me dis, et on me l'avait déjà dit en dédicace d'ailleurs, ah, oh, vous devriez faire un album comme ça, enfin, parce que je faisais les dédicaces au crayon. Et voilà, c'est né comme ça.
Est-ce que tu...
J'ai parlé de pas mal de naissances, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que je parlais de naissance plein de fois. Non, non,
je sais pas. La naissance de pas mal d'idées en tout cas.
Oui,
ou
voilà,
de...
c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça.
Est-ce que tu vis de tes bandes dessinées?
Oui, j'ai cette chance. J'ai cette chance sans être milliardaire, mais depuis 12 ans maintenant, les projets s'enchaînent. Voilà, je sais pas, c'est pas des fortunes, je me pose même pas trop la question. Moi, mais parce que voilà, c'est fantastique de vivre de son voilà, sa passion. Enfin, j'adore ça. Si ça peut continuer comme ça, faut pas trop que les éditeurs m'entendent là, parce qu'ils vont dire oh, on va continuer à le payer si peu. Il est content et tout. Toi, tu fais de la planche à roulettes, toi, non?
Du béton. Il fait du béton chez lui, en fait. Donc, quelle était ta dernière découverte en bande dessinée dont tu voudrais nous parler?
Je lis peu de BD depuis quelques années. J'en parlais tout à l'heure, justement, là, avec Resto. Là. Mais depuis quelques temps, depuis surtout 5000 km secondes de Manuel Fiore, qui est sorti en 2010, je crois, mais peut-être que je me trompe.
Bah, ça doit être à peu près ça, je crois. Ouais,
j'attendais le nouveau, quoi. Et que j'ai reçu grâce à Futuro. Donc, comme je suis un peu à la maison là-bas, et j'ai pu le recevoir avant tout le monde, presque. Non, mais bon, enfin, je l'attendais. Enfin, je les ai assez bassinés avec ça, quoi. Pour dès que ça arrive, s'il vous plaît, je demande jamais rien, mais ça, s'il vous plaît. Et donc l'entrevue de Manuel Fiore, j'ai adoré. C'est complètement différent, enfin complètement. C'est différent que 5000 km secondes, où je dirais celui-là 5000 km secondes. Il est solaire. Donc l'entrevue, c'est plutôt lunaire. C'est mais ça me parle vraiment, quoi, à chaque page, chaque dialogue, enfin son univers, là où il s'en va. Pareil, j'ai l'impression, je vais pas me comparer à lui, ça serait trop, non, j'oserais pas. Mais oui, c'est voilà, quelqu'un, j'ai l'impression qu'il parle le même langage, enfin, qu'on a le même, cette envie comme ça d'ailleurs, de raconter un ailleurs en partant d'éléments ça va faire bien le ouais. Je pense celui-là il va être repris, vous allez voir. Combien c'est les téléchargements?
250, 300
avec ça passe à 400. C'est de la folie. Non, ouais, donc je le conseille à tout le monde. L'entrevue, c'est un univers vraiment particulier qui pourrait paraître sombre, celui-là, rien qu'à feuilleter l'album, la couverture, et à feuilleter l'album, c'est un noir et blanc, c'est des lavis. Oui, ça fait plutôt ouais, c'est ça, plutôt noir et blanc, et pas tellement, non, il y a pas de teinte, je crois, il y a pas de rajout de couleur, je crois pas. Et j'ai adoré. Je le conseille vraiment aux 600 personnes là qui vont télécharger là maintenant. Alors parce que ça augmente de minute en minute, de seconde en seconde, et je le conseille vraiment au monde entier. Mais il a pas besoin de moi, hein, je crois que ça se passe très bien.
Là, on a passé une super journée, on s'approche de la fin, on est un peu crevé, alors on a décidé de squatter le stand Anachronique.
On est bien chez Anachronique.
Ouais, non, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, tout à l'heure, devant un verre, on va sûrement leur poser des questions. Je pense que ça peut être pas mal.
Surtout devant un verre.
Donc voilà, globalement, vous avez pensé quoi du festival de la course de cette année, les copains?
C'était long, c'était fatigant. Ouais. Mais c'était bien. C'était long, c'était fatigant. Mais c'était très bien.
Bon, je veux dire, c'était super méga bien. Bon, ben voilà. Je rajoute une couche comme vous. Okay. Bon, ben on va continuer un peu tout ça. Parce que la soirée n'est pas finie. Fin de festival. On arrive à l'heure des conclusions. La plupart des auteurs sont partis. Il est 10h30. Je suis avec Olivia, Tess et Maxime qui vont nous faire un peu le bilan de ce festival. Savoir comment ça s'est passé tout ça. Déjà, Bon, on peut le dire, on n'a pas eu une météo super géniale, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de monde. Quelle est ton analyse sur le sujet, Olivia ?
Eh ben, je pense que c'est grâce à notre travail de toute l'année. Non, mais c'est... Non, franchement, je pense... Après, certains diront que quand il fait pas très beau, du coup, les gens ne vont pas à la plage et viennent plus sur un festival de BD. Il y a peut-être ça à prendre en compte. Mais je pense qu'on a été assez efficace cette année sur l'affichage en ville, sur la communication tout au long de l'année, sur Internet, sur Facebook notamment, sur notre site Internet. Et puis tout le lien qu'on a eu avec les artistes locaux et les professionnels aussi locaux de la bande dessinée. Voilà.
D'après toi, allez, qu'est-ce qui s'est super bien passé sur ce festival cette année par rapport à l'an dernier, on va dire ? Est-ce qu'il y a un point qui te semble avoir mieux marché que l'an dernier ?
Je pense on a fait un gros effort, en tout cas c'était ce qu'il fallait faire à mon avis, sur la programmation qui a été annoncée très en avance, qu'on a vraiment préparé tous ensemble, voilà. Et donc une programmation riche au niveau des rencontres notamment, qui était bien calé et ça s'est bien déroulé. Je pense que la programmation, c'était quelque chose. Avec un beau contenu, avec un beau thème. Mais après, il y a plein d'autres paramètres. Enfin, je pense qu'il y a eu de l'amélioration.
Moi, j'ai l'impression qu'en point positif, il y a aussi toutes les animations type conférence qu'il y a eu, qui sont un vrai plus en termes de contenu, comme disait Maxime. Il y a un vrai plus de ce point de vue-là, que ce soit Arthur Depince qui a été absolument génial en expliquant son travail de A à Z au public présent, plus la conférence 17 mai. Bref, il y avait vraiment du contenu encore plus fort, je trouve, que l'an dernier, et qui était vraiment très fédérateur pour le public. C'était peut-être des choses aussi qui ont amené plus de public que l'an dernier.
Tu penses qu'il faudrait encourager la... Enfin, vous pensez, vous pouvez tous répondre, hein. Le premier qui lève la main, je passe le micro, que justement ce côté thématique, c'est la première année que vous faisiez des thématiques, une exposition, un débat, etc. autour de ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que va falloir encourager l'équipe qui va vous remplacer à renouveler ça?
Oui.
Tu m'as demandé des questions oui. Pas trop ouvertes. Hein.
Oui. Voilà. Voilà. Oui. Après, il faut trouver la thématique. En l'occurrence, moi, cette thématique-là, elle m'arrangeait bien parce que personnellement, je suis aussi pas mal engagée. Et donc, j'avais des idées de ce côté-là. Après, ouais, voilà, faut trouver la thématique, mais c'est vrai que ça donne un fil rouge, une cohérence à tout le festival en fait, et à toutes les rencontres, enfin au festival dans sa globalité. Après, aussi sur les améliorations, on avait beaucoup plus d'exposants artistes, et donc il y avait des choses à proposer, plus d'ateliers. Donc pour moi, c'était plus vivant que l'an dernier.
Là, vous manquez peut-être un peu de recul, mais est-ce que déjà vous avez une idée des trucs qui seraient à améliorer? Pour le festival à venir. Ah, je vois, ils réfléchissent. Là, le manque de recul aide pas. Ah, vas-y, test, je sens un regard de test, vas-y, test.
Pour l'instant, j'ai pas encore de recul parce que c'est ma première année, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de points que j'ai découvert, notamment au niveau des permanences, des trucs taxi, tout ça. Mais peut-être, ouais, retravailler les permes du côté de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on a 25 personnes, donc c'est très utile, mais. Mais il faut réussir à faire, à trouver le juste milieu entre la détente et le fait de profiter du festival et le côté où il faut servir et rester quand même assez professionnel parce qu'on a beaucoup de public. Et il faut réussir justement, bien qu'on soit des étudiants, à garder une image vraiment professionnelle et un peu plus adulte peut-être. Donc ça, il faut le travailler. Et après, je sais pas, je dirais qu'il y a des choses à améliorer certes, mais c'est comme pour tout. Puis ça dépend aussi du thème. Je sais pas, je suis en grande réflexion, on va dire. Mais peut-être trouver des logiques un peu plus marquantes entre les auteurs ou le thème et les activités. Parce que là, on a vu déjà avec l'espace jeux vidéo et cosplay et le match d'impro surtout, c'est des choses qui donnent vraiment vie au festival et qui attirent beaucoup de personnes. Et je trouve que ça, c'est vraiment un point fort qu'on n'a pas mis assez en avant. Puisqu'on a vu pendant le match d'impro que tout le monde s'est retrouvé dans l'amphi B et il y a eu en... même pas 2-3 minutes, tout le monde était impliqué dans le festival. Et j'ai eu l'impression par moments que les visiteurs pouvaient se trouver un peu passifs. Donc c'est des points vraiment à travailler. Non, c'est pas une critique, hein, mais ça permet une évolution aussi dans le festival. Et justement, c'est des points forts qui pourront redonner une image encore un peu plus, peut-être un peu plus étendue du festival et le faire connaître dans la région PACA. Et pas uniquement la région, enfin dans Marseille quoi, ou les alentours. Mais ça, c'est à travailler. Encore une fois, c'est sur le week-end, il faut du temps pour y penser.
Il est connu ailleurs qu'à Marseille. Hein.
Vous avez réussi à profiter un peu du festival, parce que vous devez conduire les auteurs, gérer la logistique, la bouffe, guider les gens, vous arranger pour que ce soit à peu près propre.
Est-ce que
vous... Ouais. Oh là là, ouais. Enfin, vous avez des moments où vous pouvez un peu profiter, les soirs où c'est peut-être un peu plus tranquille, et encore, pas sûr. Vous avez réussi à profiter un peu des auteurs aussi du festival, vous, Maxime?
Alors, après peu d'heures de sommeil et des litres de café faits sur place pour les exposants, on a quand même réussi plus ou moins à participer à quelques conférences. Chacun a participé à au moins une conférence, parce que cette année, on en avait 6 quand même. Et toutes des biens en plus. Et donc on a quand même chacun essayé de participer aux conférences. On a réussi cet après-midi à aller voir les auteurs pour discuter avec eux, prendre des dédicaces et quand même à profiter, même si on avait un planning chargé et que l'équipe était un petit peu plus réduite que l'an dernier et que ça nous demandait un peu plus de travail.
Justement, si j'avais un conseil à donner là sur les permes, c'est justement de faire en sorte qu'on tourne vraiment et qu'il y ait des gens qui puissent à un moment donné assister à quelque chose. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de tenir exactement ces permes, parce que des fois, il y a toujours des choses à faire d'un côté ou de l'autre.
Mais on a quand même trouvé naturellement un équilibre un peu partout dans le festival. Il n'y a jamais eu de gros vides où les gens se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de personne pour leur indiquer la route ou pour leur donner des informations quelconques. Donc je pense qu'on peut profiter du festival d'une part parce qu'on l'organise toute l'année, donc forcément arrivé au week-end c'est de l'adrénaline et puis on est tous à fond dedans, donc ça c'est sûr. Et d'autre part parce que voilà, on trouve un équilibre. Si on a un qui a une paire mais qu'il y en a un qui est en temps de pause, il va venir automatiquement, il va aller en cuisine, il va commencer à faire toute la vaisselle et tout ça, donc il y aura forcément une personne en trop, celle-là ira profiter ailleurs. Et de nous-mêmes on trouve un équilibre, et après au moment des crises un peu entre guillemets comme on a vu aujourd'hui par exemple, il suffit simplement de se reporter à la perme de base. Et là, s'il nous manque une personne ou quelqu'un a besoin de partir en urgence, quelqu'un qui n'était pas à sa perme, on appelle et la personne qui était référencée à cet endroit arrive de ce pas. Donc ça s'organise assez facilement en fait. Donc c'est vraiment, faut s'adapter, mais je pense que dans l'ensemble, ça se fait assez naturellement.
Comme pour tout, avoir un cadre flexible quoi, globalement. Hein. Pour revenir sur les interventions, les différentes animations, c'est effectivement important qu'il y ait du monde, du staff qui soit présent. Ne serait-ce que pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a un bon retour de la part du public, est-ce qu'il y a un bon retour de la part des auteurs, pour justement pouvoir modifier les choses ou pas pour l'année suivante et reprendre les choses intéressantes. La battle d'impro, c'est un truc qui a super bien marché, qui a été ultra fédérateur, qui a attiré du monde, je pense. Moi, j'ai fait venir des collègues qui m'ont dit qu'est-ce qui a l'air intéressant pendant le festival au-delà de la rencontre avec les auteurs. Et effectivement, en lisant le listing, je leur ai dit ce qu'il y avait comme conférence, et c'est naturellement vers ça qu'ils sont venus. Ils sont venus en famille, avec des amis, en emmenant des amis, et ils se sont absolument éclatés. Les gamins voulaient rester là, ne voulaient pas aller forcément voir les auteurs pour se faire dédicacer des trucs, alors généralement il y a des petites étoiles dans les yeux quand on voit les auteurs dessiner. Là vraiment, c'est un truc qui a super bien marché, et c'est une idée, celle-là ou quelque chose de similaire, en tout cas à conserver pour la suite.
Celle-là, elle était déjà là l'année dernière. Ce qu'on a rajouté cette année, c'est qu'on a voulu faire participer la troupe d'impro de l'école. Ça a été un point fort aussi à mon avis cette année, c'est qu'on a fait participer les commissions artistiques de l'école, et c'était fédérateur aussi au niveau de l'école. Et nous, ça nous donne au niveau du bureau des arts une vie, une activité, une cohésion importante. Et je trouvais ça intéressant, et en plus voilà, donc du coup les deux équipes se sont éclatées je pense à faire ça entre elles, et c'est toujours quelque chose qui marche du tonnerre. En même temps c'est génial quoi. Et cette fois on avait aussi 3 équipes de dessinateurs avec j'allais dire des niveaux différents et surtout des expériences différentes du dessin, et de cet exercice d'ailleurs, Anachronique qui est sur cet exercice chaque année, Étienne Lécroard et Ibn Al-Rabin qui sont des adeptes de l'Oubapo et donc des jeux dessinés avec contraintes, mais je sais pas sur quelle durée ils le font habituellement. On voit que voilà. Et Sébastien Le Gall et Vincent Dubos qui ont un projet BD en ce moment, mais qui sont assez, enfin en tout cas sur le projet BD, je sais que Sébastien a travaillé en croisillon à faire des planches pendant 9 heures de travail, etc. Et qui ont voulu participer et qui sont aussi éclatés. Et finalement, il y a eu un beau challenge entre les trois équipes, quoi. Ouais, c'était vraiment génial.
Bon, moi, je crois qu'on va pouvoir poser une dernière question. Quel est le truc, parce que bon, allez, tout était bien. Quel est le truc qui vous a le plus plu sur le festival?
Alors, l'événement le plus fort pour moi cette année par rapport au thème, c'était la conférence sur l'événement 17 mai et l'exposition sur le projet 17 mai. Parce que c'est vraiment un projet qu'on a lancé depuis l'an dernier, depuis un an, qu'on a toujours voulu mettre en place sur le festival. C'est un projet de longue haleine qui nous tient vraiment à cœur à tout le monde sur le festival. Et on a réussi à faire une belle expo. À faire une rencontre avec les investigateurs du projet, les personnes qui l'ont créé, et en plus maintenant le projet il va être évolué et ça va être édité en bande dessinée, donc on est quand même content et c'est vraiment un des points forts du festival qui nous représente un peu, notre génération, enfin pour moi mon équipe, et ça représente un peu notre équipe et notre festival.
Alors moi je dirais la rencontre autour du 9e art comme média d'engagement, parce que je l'ai animé et qu'en fait non mais bon,
oui, mais c'est le point fort pour toi,
voilà c'est le point fort pour moi, où vraiment la journée d'hier je sais pas, j'étais dans une euphorie presque, enfin c'était à vivre, c'était vraiment génial quoi, et d'animer cette rencontre c'était un beau moment aussi. Ouais.
Moi, c'est peut-être un peu à part parce que comme je suis au pôle logistique, c'est vrai que le festival, j'en ai profité, mais à ma façon, quoi. J'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas pu assister à toutes les conférences et moi, bah, ce qui m'a plu, c'est juste le boulot qu'on a fourni et c'est surtout le travail d'équipe, parce que sans les membres du bureau des arts, on n'aurait jamais pu réussir comme ça. Et c'est des personnes qu'on connaissait pas. Faut savoir qu'en fait, dans la majorité, on connaissait personne. Et ce week-end, on se connaît tous et maintenant, voilà, ça devient peut-être pas de là à dire une grande famille, mais en tout cas, on s'est tous rapprochés, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, et pour moi, c'était un message fort aussi au sein de l'école et du festival, parce que ça retransmet aussi à l'extérieur. C'est une bonne image pour le festival, et c'est aussi ce que les gens apprécient dans Décalanque et des Bulles.
Vous savez déjà qui sera le chef l'an prochain? Parce que ce sera plus Olivia, c'est vrai ça?
Déjà, avant de dire qui sera le chef, non, on sait pas encore. Mais comme le disait Tess, oui, avant tout, c'est quand même un travail d'équipe, et là, on l'a vu clairement, enfin on le voit clairement aussi dans le côté opérationnel, qu'on peut compter les uns sur les autres, s'il y a quelque chose qui va pas, on envoie quelqu'un, il y va, enfin bon, voilà. Et du coup, vu que moi je me retire, merci à toute l'équipe de Décalanque et des Bulles d'abord, et à l'équipe du Bureau des Arts qui nous a soutenus sur le week-end.
Oh putain, avec la musique, ça voilà. Trop triste là.
Voilà. Et non, en fait, le nouveau chef va être élu dans pas très longtemps, mais à la rigueur, c'est oui, de manière démocratique. Mais à la rigueur, je sais pas si c'est l'essentiel, puisque voilà, c'est une équipe et que dans l'absolu, moi, c'est le conseil aussi que je donne de toute façon, même si c'est pas facile forcément à tenir, mais c'est de faire un festival qui convienne à tout le monde et enfin surtout qui soit décidé, choisi par tous. Donc chef de projet ou pas, voilà, le tout c'est de s'éclater et de choisir son festi, d'avoir des ambitions quand même pour le festival. Voilà.
Bravo, bravo. Bah, merci beaucoup en tout cas, merci de nous avoir nous invités cette année pour participer au festival. Parce que bon, on a le match de foot en arrière-plan, ça change un peu l'ambiance. Coldplay, c'était mieux. Donc, merci de nous avoir accueillis. Nous, on a passé un super moment. On a fait des trucs qu'on n'avait jamais fait en plus. Donc, la rencontre en public, on n'avait jamais fait. C'était une super occasion. On espère qu'on pourra le refaire parce que c'était vraiment très sympa. Et je pense qu'on se dit rendez-vous à l'année prochaine. Tu viendras en visite, vous viendrez en visiteur les deuxièmes années?
Ouais, j'aimerais beaucoup venir, enfin, voir mes petites premières années, comment elles se débrouillent, et puis être là en tant que visiteur. C'est-à-dire profiter de toutes les animations, pouvoir me balader et faire ce qui me plaît, quoi.
Ok. C'est bon, c'est le foot, tu peux rien faire contre ça. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à l'an prochain. Ciao.
Merci à vous de venir sur le festival et pour tout. Ouais, pour tout, en fait. Vraiment, merci beaucoup. Ouais.
Bah, merci, c'était un plaisir, quoi.
Voilà, c'est fini pour nous. On va se rentrer chez nous.
Voilà, c'est fini.
C'est bon. Nous, on a passé un excellent week-end. Franchement, c'était un festival très intéressant. Vu de l'intérieur, on a l'impression que les visiteurs, eux, ont aussi beaucoup aimé. Votre grand moment, vous, sur le festival, Thio?
Je réfléchis encore.
Thi?
Je réfléchis encore un tout petit peu.
D'accord. Bon, moi, j'avoue que c'était le.
Rappelle-toi, quand tu fais une interview, normalement, tu dois en plus nous dire, nous prévenir avant des questions que tu poses. C'est toujours comme ça qu'on a dit qu'on devait essayer des trucs.
Bon, alors, je laisse réfléchir. Bon, moi, j'avoue que la rencontre avec Arthur de Pince en public, c'est vrai que c'est assez fun. Un exercice sympa. Bon, il nous a un peu surpris hein, avec le coup du dessin vectoriel en direct. On s'y attendait pas. C'est pas très radiophonique. Je sais pas trop comment on va gérer ça.
Mais ouais, Arthur de Pince, parce que ouais, cet instant-là où le mec, il arrive avec son petit truc, sa petite tablette. Allez, regardez, moi je fais comme ça, tac tac tac, et hop, en 4 coups de triangle, t'as un crabe, t'as la tête du vampire de Zombielenium, t'as une fille de pêche mignon, hop 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 hop, voilà, tu fais, ah, c'est magique. C'est là où je trouve le côté magique du dessin.
Ouais, ben, je vais venir moi aussi sur Arthur de Pince. C'est un auteur absolument immense qui se met à la portée de Monsieur Tout-le-Monde, qui s'est mis à notre portée, qui s'est mis à la portée des orgas, qui a été super dispo pour eux, pour l'affiche notamment. Et qui fait un boulot absolument merveilleux. Donc, un grand bravo à ce grand monsieur.
En tout cas, voilà, ça a été un week-end très corporate pour nous. Nous avions nos beaux t-shirts que vous pouvez trouver sur notre boutique.
Et on a tout partagé, tout.
Voilà, sur notre boutique, vous cliquez sur la rubrique Aidez-nous, et là, vous trouverez le lien vers la boutique de nos t-shirts. Ah ouais, c'est fait déjà.
Aidez-nous.
Pas des nouilles. La rubrique des nouilles.
La rubrique des nouilles.
Non, on n'a pas encore ça. En tout cas, bah, j'espère que vous avez bien aimé ce petit tour au Festival des Calanques et des Bulles, autant que nous en tout cas, et que ça vous donnera envie de venir nous rencontrer, de rencontrer les auteurs et l'équipe du festival l'an prochain. En tout cas, nous on remercie l'équipe d'avoir encore fait appel à nous. On a passé un excellent moment. Merci, merci.
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 Ça m'arrive des fois, je prends le micro, je fais. Et c'est que j'ai pas. Maintenant, je perds mes questions.
Quoi? Je tapote pas le micro, je suis en dessous, je bouge les doigts. Je le garde, mais je suis en train de finir ma phrase. C'est incroyable, je veux dire. Et après on dit que c'est ma faute, tu vois. J'avais plus de questions.
Voilà, et là, vas-y.
Non mais là c'est qu'on n'a pas de volume sur le micro.
Ah ça y est.
Là t'as pas du retour ?
C'est bon. Descends-le. Tu me l'as pas mis sur le line-out.
J'étais sur le line-out.